Ce n'est pas le titre du message. Le titre du message aujourd'hui s'appelle « Qui te crois-tu ?» C'est un peu en rapport à ce que s'est passé avec ce petit loup. Alors, pour ceux qui, et ça c'est pour les enfants. Alors, pour les adultes, je pense que vous connaissez, au moins vous avez entendu parler de Mohamed Ali. Mohamed Ali était un des plus grands boxeurs du monde. D'accord? Donc, vraiment, il a gagné beaucoup de tournois, etc. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment passé ceci, mais un écrivain, dans son livre « L'homme peut-il vivre sans Dieu ?», il raconte que pendant que Mohamed Ali voyageait vers une de ses combats, d'accord, et l'avion, au milieu du voyage, il y a des turbulences qui arrivent. Donc, normalement, et il y a des codes que les capitaines donnent à leur équipe pour dire, écoutez, il faut dire aux gens qui reviennent à leur siège et que c'est bouclé la ceinture. Donc, mais en même temps, c'est marqué, et lorsqu'un pilote signale turbulence modérée, il sous-entend, si vous avez des croyances religieuses, il est temps de commencer à les exprimer. Donc, c'était fort, quoi. Les passagers ont reçu l'ordre de boucler leur ceinture de sécurité immédiatement. Tout le monde s'est conformé, sauf Mohamed Ali. Remarquant cela, l'hôtesse de l'air s'approche de lui et lui demande de faire la même chose. Et Mohamed Ali répond, Superman n'a pas besoin de ceinture de sécurité. L'hôtesse de l'air n'a pas manqué un battement à un moment et a répondu, Superman n'a pas besoin non plus d'avion. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, Mohamed Ali, il se croyait quoi? Le plus beau. Et la Bible va nous dire aujourd'hui, qui te crois-tu? Mais pas de côté orgueilleux, mais si, un peu aussi. Mais cette première partie de Romains, chapitre 2, verset 1 à 6, il va parler du moraliste, de celui qui se croit, celui qui croit avoir toute la vérité en lui. Donc tout ce qu'il dit est vrai. Donc tous ses jugements sont vrais. Donc il va, dans un sens, condamner ou mettre en avant comment ce type de gens, ils sont complètement en tort aussi. On va lire ensemble. On va lire simplement, pour l'instant, les quatre premiers versets. Chapitre 2, versets 1 à 4. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, et selon la vérité. Et penses-tu au homme qui tu juges ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La première chose qu'il nous dit, tu es inexcusable. Qui te crois-tu? Tu penses que tu es le meilleur du monde? Tu es inexcusable. Pourquoi? Parce que notre niveau d'équité, de justice et de vérité, comme le dit Paul ici, ce n'est pas du tout le même niveau que celle de Dieu. Certains disent, je me crois la perfection et en même temps, je perds de vue que moi, je rentre dans la même chose que je condamne ou je critique des autres. Pourquoi je dis ça? Dieu m'a ramené un verset biblique à notre passage. Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui l'écrit. Le roi Salomon écrit en Ecclésiaste, il était à la fin de sa vie, il était tranquille dans son palace, il était en train d'écrire ce qu'il a vécu. Et il dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme, en premier juste, qui fasse le bien et qui ne pêche point. Mais dans ce premier point, eux, ils se prennent comme des supermans. Ou comme cette loup que c'est moi le plus beau. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont la vérité en eux. Donc, qui on se croit? Et en plus, parce que cette attitude de supériorité méprise la vérité absolue de Dieu. Versets 3 et 4, on peut le relire. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? L'attitude de l'être humain vis-à-vis de Dieu est défiante. L'homme veut être son propre Dieu et gérer sa vie comme il le veut et comme il croit mieux. Ici, ce que Paul, ici, c'est quelque chose qu'il a redit déjà, qu'il a dit en chapitre 1, verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ici se manifeste clairement dans notre chaque jour quand nous prenons des décisions pour nos vies. Comment on prend des décisions pour notre vie? C'est où la vérité? C'est où cet niveau de vérité dans lequel nous prenons les décisions de chaque jour? Comment sais-je que ce que j'accepte dans ma vie est vrai? Quels sont les paramètres à tenir en compte pour savoir décider correctement? Comment je sais que je ne suis pas ce type d'homme ou ce type de personne qui se croit le plus beau ou le Superman? Jacques chapitre 1. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. On vous trompe vous-même. Par de quoi? Des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde et dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'est-on pas un auditeur quoi? Oublieux? Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quand je mets devant ma vérité, devant la vérité de Dieu, je vais voir quelle est la chose réelle. Tant que ma femme ne me dit, Joël, t'es pas coiffé. Je suis passé déjà, je ne suis pas une personne qui passe 10 minutes devant le miroir. C'est 30 secondes, 40 secondes maximum, mais c'est bon pour me coiffer. Pour me raser sur deux choses. Mais tant qu'une fois qu'on est sorti devant le miroir, on a une image de comment on a gardé. Mais si je veux revenir pour voir comment je suis, parce que ma femme me dit ça, je dois croire ou pas croire. Et si je crois, je dis, ok, je vais revenir. Et là, Dieu me dit, si je veux ne pas être une personne orgueilleuse, que je me crois que j'ai tout de la vérité, il faut que je sois face à la vérité pour pouvoir la comparer. Et si je la compare avec la vérité de Dieu, tout ça va changer ma façon de voir les choses aussi. De comment la vérité des autres va m'affecter à moi ou pas. Alors, ce type de personnes-là, c'est quoi? Le tout, et c'est quoi qu'ils sont inexcusables? Mais tu es inexcusable, tu n'as pas d'excuse. Même si tu crois que tu as tout de la vérité, tu n'as pas la vérité à 100% celle de Dieu, ou la vérité infinie de Dieu. Je vais expliquer développer un poil plus tard ce sujet. Alors, Dieu nous encourage et nous dit, si je me crois sage parce que je connais certaines choses, parce que je connais Dieu, je vous invite à lire plus tard chez vous Job, le livre de Job, chapitre 38 à 41, et les réponses que Dieu donne à Job. Dieu avait permis, écoutez bien, permis que beaucoup de choses soient enlevées de la vie de Job. il avait le meilleur, il avait le tout. Et Dieu dit, il a permis qu'une série de circonstances et ont fait que ses enfants meurent. Sa femme dit, maudit Dieu, et meurt. Tous ses biens sont partis. Et en plus, ses quatre amis viennent pour dire, t'es un pécheur. Et tout ce malheur vient à cause parce que tu es pécheur. Mais lui, ben, j'ai rien fait, moi. Et c'est comme ça, hein? Il n'avait rien fait. C'était Dieu qui avait permis cela. Et dans un moment, après avoir écouté ses quatre amis, je viens avec cette... pas avec colère, il n'était pas en colère, mais à cette questionnement de mon Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu m'as fait naître? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et Dieu dit, je ne vais pas le lire parce que c'est trois chapitres, c'est spectaculaire. Dieu répondit, étais-tu là quand moi j'ai mis les Pléiades, les Orions, dans tous les côtés, les étoiles? T'étais là quand moi j'ai créé la neige. T'étais là quand j'ai mis le soleil. T'étais là quand... Non. Donc qui a la vérité ici? Qui a le contrôle de tout ici? Qui a la chose la plus haute ici? C'est Christ. C'est pas ce que je peux croire, ou ce que j'ai au moins, ou la quantité de connaissances que j'ai, que ça me fait mieux qu'autre. C'est Paul le va dire après, en Romains chapitre 12, il va dire aux croyants de cette église, n'ayez pas un sentiment plus élevé que des autres. Parce qu'on est tous égaux devant Christ. Et la tête de l'église de Christ, c'est pas vous. Donc, l'exhortation ici, c'est que ceux qui se croient sages dans leur propre opinion, sans y réfléchir, qui sont en tort, veulent se mettre au même niveau que Dieu pour juger les autres. Évidemment, ici, il commence doucement à parler aux Juifs. La semaine prochaine, on va voir comment il va attaquer, pour attaquer, non, mais il va parler directement aux Juifs. Mais ici, il commence pour dire, même si tu es Juif, t'as pas tout là. C'est pas parce que Jésus est venu à travers le peuple juif que vous avez toute la vérité. C'est pas parce qu'on vient ici, on m'écoute, on écoute les autres, qu'on a toute la vérité. C'est Dieu qui est la vérité. C'est pourquoi on ouvre la parole de Dieu pour parler de la vérité. C'est pourquoi on nous encourage de plus en plus à chercher et à étudier par nous-mêmes la parole de Dieu. Et pas simplement écouter, sinon nous-mêmes étudier. Qui te crois-tu? Il va continuer, versets 5 à 11, c'est marqué, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses, un tresseur de colère pour les jours de la colère et de la manifestation de juste jugement et de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, mais par ton endurcissement et par ton cœur embêtant, tu amasses un tresseur de colère pour les jours de quoi? De la colère et de la manifestation de juste jugement. Alors, les jours de la colère, c'est quoi? C'est quand l'Église va être reprise. Ça, on appelle la tribulation. Après que l'Église va être reprise, il y a une période de cette année que la Bible parle, ça s'appelle la tribulation. C'est le moment où Dieu va verser sa colère sur tous ceux qui ont voulu le rejeter. D'accord? Alors, ces jours de la colère, de juste jugement de Dieu. Dieu est juste. Il est véritable. On vient d'en chanter. Tu es puissant, tu es redoutable par ton pouvoir. Il est juste dans son jugement. Pourquoi? Parce que sa vérité est vérité éternelle, et à 100%, à 1000%, 10 000%, comme vous voulez le voir. Mais il dit que à cause de mon endurcissement, à cause de que ce type de personne était, ou peut-être je peux arriver à être très orgueilleux, très me croire Superman, ou me croire le plus beau, j'ai endurci mon cœur. Je ne veux pas écouter les autres. Mes amis, j'étais comme ça. Quand on est sorti de l'Institut biblique en Argentine, parfois on devient et on dit bon, tout ce qu'on nous a appris, c'est la vérité finale de Dieu. Donc il n'y a pas de place pour changement, il n'y a pas la place pour avancer. Ça, vous savez comment s'appelle cela? Légalisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà ces mots-là. Légalisme, ça veut dire quoi? Que tout ce qui la Bible dit, c'est comme ça, il n'y a pas de possibilité de changement. Mais après, commencer à étudier la parole de Dieu dans une autre école, j'ai vu que ce... J'ai reçu des claques de la part de Dieu pour dire, ben Joël, tu te crois-tu? Qui? Et j'avais étudié que ça, la parole de Dieu. Pendant 3 ans. Et puis pendant 7 ans, j'ai fait une autre petite plus comme ça. Pourquoi? Pour que Dieu me dise, Joël, ma vérité est meilleure que la tienne. Je vais t'apprendre ma vérité. Mais il faut que tu restes devant ce miroir pour que je te montre ma vérité. Alors, la Bible dit qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, on va lire la chose suivante. Matthieu 16, versets 24 à 27, dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qui donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun, encore une fois, selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Alors, versets 6, 7 jusqu'à 10. Il est réservé là, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Attendez, je vais le mettre ici, comme ça vous pouvez le voir. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, s'en révèlent à la vérité et obéissance à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif, premièrement, puis le grec. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif, premièrement, et pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Vous voyez, il répète deux fois, grec et juif et grec. Il peut dire tous. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Quand il va rendre à chacun selon ses œuvres, il va donner n'importe la nationalité, n'importe la race de laquelle tu viens. En premier, il va dire... Il va sauter, il y aura un premier, et il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 10, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les juifs premièrement et puis les grecs. Après, le côté négatif, mais irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à la justice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal sur les juifs premièrement. Et puis, sur le grec, mes amis, ici, Paul ne dit pas que les bonnes œuvres sont nécessaires pour le salut. Il dit simplement que, en première chose, quand on vient à Christ, les bonnes œuvres sont une démonstration de ce qui s'est passé dans notre cœur. Et n'importe la quantité de bonnes œuvres qu'un homme, un être humain peut faire devant le Seigneur, ils ne sont pas suffisants pour arriver au ciel. Ils ne sont pas suffisants. N'importe la quantité d'argent que je donne à quelqu'un, n'importe la quantité de foi que je partage, que je fais un travail de collaboration au bénévolat dans une association, tout ça c'est excellent, il faut le faire. Mais cela ne ne me mène pas au ciel. On lisait tout à l'heure. Et que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qui donnerait un homme en échange de son âme? Écoutez bien ce que c'est pas moi, ce que Paul dit. Évidemment, il ne répond pas. Peut-être qu'il répond les mots de Jésus. Rendre chacun selon ses œuvres, attention à ne pas confondre bonnes œuvres égale vie éternelle. Jamais de la parole de Dieu, il est dit que nous devons faire une œuvre pour arriver au ciel. Devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Disons avec ceci que n'importe qui et ce que tu fais, chacun recevra selon ses œuvres. Donc Dieu nous a donné Christ, comme on a vu aujourd'hui. À travers la croix, il nous a donné cette possibilité de venir à lui. Et si on a fait ce choix de venir à lui, on a cette nécessité de persévérer. Pourquoi? Parce que, ça serait un moment de notre prédication, d'avoir des couronnes, on appelle comme ça. Mais pour ceux qui ne sont pas venus à Christ, même s'ils ont fait tout le bon comme ça, ils vont, la vie le parle, il y a, excusez-moi, Jésus parle plus de l'enfer que du ciel. La Bible dit comme ça. Tous ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Christ, leur destin, c'est être éloigné de Christ. La Bible dit, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et ce n'est pas que ma vie s'est finie dans un enterrement, ce n'est pas ça. On ne parle pas de mort, on parle de séparation. Éloigné de Dieu pour l'éternité. Et pas de le rien dans l'enfer. Dieu n'est pas juste. Dieu n'est pas amour. Oui, il est amour. Pourquoi? Il est juste. Pourquoi? Parce qu'il donne à chacun la possibilité de choisir. L'homme rejette Christ. Et Dieu dit, tu m'as rejeté. Je t'ai montré mon amour, je t'ai montré qui je suis. Alors, tu n'as pas voulu, c'est ton choix. C'est ton choix. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, il faut voir quel type d'œuvre on est en train de faire. Avec quel type de cœur on est en train de le faire. Avec quelle vérité nous sommes en train d'accepter dans notre vie pour vivre comme ça. Dernière partie de notre passage, notre conscience en cadeau de Dieu. Romains 2, versets 12 à 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sous la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ici, Paul, quand on lit la parole de Dieu, mes amis, il faut se souvenir à qui est écrit. D'accord? Pour ne pas sortir de contexte. Ici, Paul est en train de parler de juifs et non-juifs. Vous savez pourquoi il parle de ceux qui sont sans loi et qu'il parle de non-juifs. D'accord? Verset suivant. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux sont ceux qui la mettent en pratique, qui sont justifiés. Quand les païens ou les non-juifs qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est quoi? Écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Et leur pensée s'appuissant ou se défendant à son tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de l'homme. Alors, comme nous venons de dire auparavant, nous avons une vérité à laquelle nous faisons appel chaque fois que on veut savoir si je dois prendre si, quel type de décision je vais prendre. Quand Dieu créa l'homme, il a écrit sa vérité dans sa conscience. Dieu nous a donné sa vérité. Je m'explique. Comment sait-on quand on est en train de mentir? Qui nous a expliqué cela? Personne. Dans notre tête, conscience, cette vérité-là, imaginez-vous, ici, cette vérité-là, c'est la vérité de Dieu. Dieu dit, le mensonge, c'est contre ma sainteté. Et cela est écrit déjà dans notre vie. À tous les hommes, croyants ou non-croyants. D'accord? Donc, je passe par la case mensonge, automatiquement, ici et ici, plutôt dans ma conscience, il y a quelque chose qui commence mon cœur commence à battre plus vite. Pourquoi? Parce que nous savons que ce n'est pas correct. La vérité de Dieu est en train de me dire, attention, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Quand on va tromper quelqu'un, quand on va lever la voix aux enfants, quand on va faire quelque chose qui ne s'est pas correct, quelle est la vérité que j'écoute? La vérité de Dieu qui est inscrite dans ma tête, dans ma conscience. Oh, j'ai accepté tellement de choses de ce monde qui m'avait été faussé maintenant. Romains 12:2, on l'a lu dans quelques semaines auparavant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés. D'accord? Par le renouvellement de votre intelligence. Pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Alors, si ma tête, si ma vérité est faussée, j'ai accepté la façon de la vérité de ce monde, mes décisions vont être faussées. Comprenez bien. Tu nous as donné, et dans notre tête, nous pouvons échanger des vérités pour la vérité du monde et la vérité de Dieu. Dieu nous donne cette capacité et cette liberté. C'est super. Mais une décision peut nous amener très loin de Dieu ou très proche de Dieu. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Lot et d'Abraham, Lot, c'était le neveu d'Abraham. Il avait une dispute énorme parce qu'il avait beaucoup de moutons. C'était difficile de vivre ensemble. Dans un moment, Abraham dit, écoute, on est là. Et la Bible dit, Lot a levé ses yeux, il a vu la rivière du Jourdain et tout le pâturage. Il a dit, ça c'est pour moi. Il a pris la décision. Il est allé par là. Et au fur et à mesure, il a terminé où? En Sodome et Gomorre. Les deux villes, les pires villes que la Bible nous parle, en moi, du côté débauche, immoralité, c'était la cata. Une décision parce qu'il a décidé et vu. Sa vérité pour lui, c'était côté pratique. La Bible dit, c'est très intéressant, l'histoire, quand c'était le moment d'Abraham, il y a Dieu dit à Abraham, lève tes yeux. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux, dit, regarde. Qu'est-ce que regardait Abraham? Le désert. Mais c'est Dieu qui parle. Et Dieu l'a donné. Bon, après, vous pouvez lire toute l'histoire d'Abraham, c'est incroyable. C'est pourquoi, c'est grâce à sa foi qu'on est là aujourd'hui ici. Donc, toutes les décisions et la vérité de Dieu sont dans notre conscience. Notre conscience nous va nous déterminer, nous dire dans quel chemin prendre. Alors, quelle vérité je prends? La mienne ou celle de Dieu? Je passe le temps à chercher Dieu pour comprendre sa vérité. Ou simplement, je fais autre chose. Ce que Dieu nous a donné montre que l'homme est inexcusable. et que sa sagesse limitée ne peut pas être comparée à celle de Dieu. Qui te crois-tu? Qui me crois-je, moi? Des bons dieux. Des bons dieux, le plus haut, la plus haute position qu'on peut avoir, écoutez bien, la plus haute position qu'on peut avoir devant Dieu, vous savez laquelle c'est? Oh, déjà, on est enfant de Dieu. Ça, c'est déjà, c'est super. Mais l'autre, serviteur. La Bible nous appelle, vous savez comment elle nous appelle? Esclave. Esclave d'amour. Esclave. On est libre. Mais on est esclave d'amour. Donc, un esclave, il a des droits, oui. Et je suis attaché à Christ. Oui, on est attaché à Christ. Grâce à son esprit, il est le garant. Est-ce que vraiment, on lui laisse la place complète? Est-ce qu'on se met, nous, à des côtés pour laisser la place complète à Christ, que sa vérité complète vient nous envahir? Qui te crois-tu? Comme Mohamed Ali, toi et moi, nous pouvons tomber dans le syndrome de Superman. Quelqu'un a dit, je peux tout par moi-même qui me fortifie. La Bible ne le dit pas ça. Mais parfois on le vit. Parce que je connais la Bible, parce que je connais. Donc, moi voici. Non. Je peux tout en Christ qui me fortifie. Sommes-nous dans ces cas suffisamment humbles pour reconnaître notre besoin d'avoir la réponse de Dieu chaque jour pour notre bien? Seul Dieu a la bonne réponse pour nos vies, faisant lui confiance. On vient de chanter avec son esprit. Il nous a donné son esprit pour nous expliquer sa parole, pour nous dire attention à ce que tu crois. Je t'ai déjà donné mon esprit, écoute-le, écoute-le. Chaque œuvre on va rendre à chacun selon ses œuvres. Et chaque fois que je bouge dans cette vie, c'est grâce à la vérité, aux vérités que je crois dans ma vie. Quelle vérité est en train de croire? Je suis en train de croire. Je vous invite à prier. Seigneur, le seul puissant, c'est toi. Le seul gagnant, c'est toi. Le seul qui a toute la vérité, c'est toi. Et Seigneur, je te demande pardon si je me suis trouvé, Seigneur, dans le même cas, avec ce syndrome de Superman. Avec ce syndrome de me croire le plus beau. Je te remercie parce que la vérité totale, c'est la tienne. Parce que la clarté totale, c'est la tienne. Et nous pouvons nous réfugier et venir devant sur ta parole pour trouver une réponse. Pas simplement nous confier à nos forces, mais te laisser à toi faire le travail. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour cette semaine qui démarre. Que nous puissions Seigneur te faire confiance et que ta vérité Seigneur soit celle qui gagne. En ton nom. Amen.